sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. Certains d'entre vous nous interpellent ce matin sur l'adoption, cette semaine, au Gabon, d'un projet de loi dépénalisant l'homosexualité. Des réactions en Guinée après cette proposition de la commission électorale d'organiser l'élection présidentielle le 18 octobre. Une date qui ne fait pas l'unanimité. On nous appelle du Tchad pour commenter l'énième report des élections législatives. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous interpeller sur la crise politique au Mali et les appels à la démission du président Ibeka, le procès de Vital Kamerhe et ce verdict qui fait débat. 20 ans de prison, on y reviendra. Voilà donc quelques-uns des sujets que nous aborderons dans la libre antenne. Vous êtes les bienvenus. On vous attend. 33 9 693 693 70. Les réseaux sociaux, la page Facebook et le compte WhatsApp d'appels sur l'actualité. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, vos témoignages sur la pandémie de coronavirus. De nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement, mais l'OMS met en garde. La pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer un peu partout sur la planète et l'OMS prévient que le seuil des 10 millions de cas dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine. Alors, quelle est la situation sanitaire dans votre pays? Comment évolue la pandémie? Parlez-nous des mesures qui sont prises pour faire face au Covid-19. Vous êtes les bienvenus au 33 9 693 693 70. En tout cas, sur la page Facebook, vous êtes nombreux à pointer du doigt les discours alarmistes de l'Organisation mondiale sur la santé concernant le continent africain. Olivier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, et vous êtes, on va le dire, vent debout contre ces communiqués de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'Afrique.
Oui, je n'appellerai pas ça communiqué ou prévision. Moi, j'appellerai ça pronostic de l'OMS sur l'Afrique. Et chaque fois, ça a été annoncé qu'en Afrique, au mois de juin, les rues seraient joncées de morts. Après, ils ont dit que non, ça ne va pas être juin, ça va être plutôt juillet. Et puis, juillet s'approche, on dit que non, ça va être finalement en octobre. Enfin, il va y avoir des millions de morts en Afrique.
Vous exagérez, en tout cas, c'est votre façon d'interpréter les communiqués de l'OMS. Il n'a jamais été dit que les rues sur le continent africain seront jonchées de morts. L'Afrique doit se préparer au pire. Voilà ce que disait, par exemple, l'OMS à la mi-mars, alors qu'il n'y avait que 233 cas recensés officiellement, répertoriés officiellement sur le continent africain. Pas plus tard que la semaine dernière, l'OMS mettait une fois de plus en garde l'Afrique. Comment vous expliquez-vous ce décalage entre les prévisions de l'OMS et les faits et la réalité, puisque la catastrophe annoncée par l'organisation, heureusement pour l'Afrique, n'a pas eu lieu?
Bon, mais je ne sais pas si on parle de prévision. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas...
Alors attendez, vous savez quoi, Olivier, on est en train de vous perdre. Peut-être déplacez-vous, mettez-vous un peu vers l'extérieur qu'on puisse bien vous entendre. J'ai sous les yeux beaucoup de commentaires, je vous le disais, hein, concernant l'OMS. Aboubacar nous dit, mais pourquoi l'Afrique devrait-elle s'inquiéter? L'OMS nous avait annoncé le pire pour le continent africain. Le pire n'a pas eu lieu. C'est du n'importe quoi. L'OMS n'est plus crédible, nous dit Laurent. Serge affirme que l'OMS doit arrêter de nous faire peur avec ses propos alarmistes. Ici, plus personne ne se soucie de ce que pense l'OMS, nous écrit Franck. Et puis Abdias, par exemple, il affirme, nous ne prenons plus en compte les propos mensongers et alarmistes de l'OMS. Cette organisation n'est plus crédible. On a eu à plusieurs reprises l'occasion d'avoir Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS pour le continent africain. Il a eu à s'expliquer à plusieurs reprises et à dialoguer avec vous. Olivier, vous êtes de retour?
Oui, je suis là.
Alors, vous disiez donc...
Donc, je disais que les prévisions de l'OMS ne sont pas des prévisions parce que ça s'apparente à des pronostics.
Oui, mais expliquez-vous ce décalage ou cette volonté à publier des pronostics, pour reprendre votre expression, Olivier?
Mais le problème, c'est que tous ces pronostics sont faits à partir en dehors de l'Afrique. Vous voyez-vous, les gens ne sont pas, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas descendus sur le terrain pour voir les réalités africaines, pour voir comment les Africains, eux, je crois qu'il n'y a pas eu d'études menées sur le coronavirus, puisque c'est une pandémie qui s'adapte, j'ai l'impression, en fonction des régions à travers le monde, et j'ai comme impression que l'OMS n'a pas fait des enquêtes approfondies en Afrique, n'a pas fait des études spécifiques sur les cas africains, pour faire ces sortes de prévisions.
Oui, oui. Alors, Olivier, vous n'êtes pas le seul à critiquer l'OMS, des intellectuels ont signé des pétitions, des scientifiques également ont pointé du doigt ces communiqués alarmistes de l'Organisation mondiale de la santé. Arnold, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Korogo, en Côte d'Ivoire, et vous allez un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre et lire sur nos réseaux sociaux. Vous estimez quand même que c'est quand même un peu exagéré de vouloir critiquer l'OMS.
Eh bien, c'est exact. À mon avis, pour moi, l'OMS, son rôle premier, c'est d'assurer une veille stratégique sur la situation sanitaire dans le monde. Et en cas de pandémie ou d'épidémie, elle se doit de proposer aux États concernés des recommandations. Bien sûr que ces recommandations doivent avoir été éprouvées par des tests scientifiques rigoureux. Mmh. Donc, elle est pleinement dans son rôle quand elle avertit l'Afrique sur ce qui pourrait advenir si le continent ne prend pas de dispositions pour faire face à cette pandémie.
Oui. Mais enfin, quand on lit les communiqués, par exemple celui du mois dernier, l'OMS affirme qu'entre 29 et 44 millions de personnes seront affectées sur le continent africain au cours de cette année 2020. Les faits, finalement, contredisent le discours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tout de même, comme l'affirment certains auditeurs, à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne prends pas position, que l'OMS entretient un certain afro-pessimisme?
Eh bien, pas du tout. L'OMS, pour moi, a pleinement raison. Mmh. Vu que nos dispositifs sanitaires, c'est-à-dire quoi, nos infrastructures de santé sont limitées,
oui,
l'OMS a pleinement raison de s'inquiéter.
Mmh.
Aussi, la proximité dans laquelle nous vivons ici en Afrique, ce sont des facteurs qui sont peut-être aggravants.
La proximité, c'est un point très intéressant et ça me permet de vous annoncer qu'à la fin de cette première partie, comme à chaque fois que nous parlons de Covid-19, nous donnerons la parole à une personnalité. On a eu des sociologues, nous avons eu des philosophes, des artistes. Et bien tout à l'heure, ce sera l'anthropologue ivoirien Issiaka Koné qui souhaite parler justement de ce confinement, de cette proximité qui caractérise l'Afrique, sans vouloir être caricatural. On en parlera avec lui puisqu'il souhaite aborder justement cet aspect très précis. En tout cas, merci à tous les deux. Olivier de Djamena, Arnold à Korogo. Prenez soin de vous. À très vite, je l'espère, sur l'antenne de RFI. On repasse au standard avec Alassane qui s'impatiente. Il souhaite prendre la parole. Bonjour Alassane.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles auditeurs.
Vous êtes à Cancan, en Guinée. La réouverture des classes est prévue dans quelques jours, ce sera lundi. Lundi, donc retour à l'école pour les élèves et retour à l'université pour les étudiants. Vous êtes inquiet, vous, Alassane?
Très inquiet, Juan, parce que moi j'attendais de la part des autorités à ce qu'ils mûrissent d'abord les réalités du terrain avant de programmer la réouverture des classes. Parce que si nous tenons compte des trois facteurs les plus importants de l'éducation, on peut dire qu'il est impossible de réouvrir les classes le lundi. Le premier facteur, c'est quoi? C'est le retard énorme acquis au niveau de l'enseignement qui est causé par la grève des enseignants, en plus la pandémie internationale. Donc, si nous prenons la période de grève des enseignants, nous avons fait quelques mois sans que les cours aient lieu dans plusieurs préfectures et environnements de la République.
Et donc, mais il faut, à un moment donné, Alassane, il faut bien reprendre les cours.
Oui, mais il faut tenir aussi compte des réalités, parce qu'on ne peut pas reprendre les cours avec la saison des pluies qui s'annonce surtout en Guinée. Et nous connaissons en Guinée, il y a 6 mois de pluie. Mm. Et surtout le cas de Conakry. Vous connaissez, quand il pleut à Conakry, c'est très très risqué de laisser les enfants emprunter les taxis ou bien vraiment les enseignants sortir.
Donc vous dites, Alassane, alors vous êtes en train de nous dire, ne reprenons pas les cours en Guinée et la saison, alors saison, on parle de saison pour le sport, mais enfin oui, on va dire la saison 2019-2020 sera finalement une année blanche alors.
Oui, c'est moi je préfère cette année blanche parce que vouloir faire un forcing pour envoyer les enfants à l'école, c'est contribuer vraiment à l'échec de l'avenir de ces enfants sur le plan intellectuel.
Alors Alassane, ça c'est votre approche à vous. J'ai sous les yeux le commentaire de Boubacar. Il est en Guinée, il est à Conakry et il nous dit référence évidemment au retour des enfants à l'école. Incontestablement, nos enfants seront exposés au virus car nous n'avons pas les moyens de faire respecter les mesures barrières dans les salles de classe qui sont bondées, 100 à 200 élèves par classe. C'est une préoccupation également pour vous, Alassane, ou pas ?
Oui, Juan, ça aussi c'est une autre préoccupation. Mais surtout, il y a aussi le troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, M. Juan, parce que depuis l'annonce de la pandémie, vous savez, le transport a monté de doublement. Et s'il faut laisser les enfants aller à l'école, les enseignants se déplacer, et il n'y a aucune mesure d'accompagnement que le gouvernement a prise pour pouvoir vraiment respecter la réouverture des classes. Donc, oui. Il faut tenir tous ces critères là pour pouvoir vraiment programmer la réouverture. Il ne faut pas se comparer aux pays. Par exemple, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'ont pas les mêmes réalités que la Guinée.
Ouais, les enfants sénégalais qui sont retournés hier à l'école, on a pu le suivre en reportage avec notre correspondante permanente Charlotte Idrac. Alassane, merci infiniment de nous avoir interpellés sur ce point très précis de la situation en Guinée. Le témoignage maintenant de Marcus, il est congolais de Pointe-Noire. Marcus nous a contactés en début de semaine. Cela fait, tenez-vous bien, 4 mois qu'il est bloqué en Afrique du Sud, au Cap. Il est bloqué en raison de la fermeture des frontières, en raison de la suspension des vols internationaux. Bonjour Marcus.
Bonjour Juan.
Comment allez-vous ?
Physiquement ça va, mais mentalement je dirais que ça ne va pas du tout.
Racontez-nous, expliquez-nous.
Ben, au mois de mars, j'avais pris mes congés. Et j'avais bien voulu venir passer un séjour ici à Cap Town. Pour élargir mes horizons, mais qui est malheureusement un séjour qui s'est soldé en cauchemar avec la fermeture des frontières due à cette pandémie.
Et donc depuis 4 mois, vous êtes livré à vous-même, vous avez quand même un soutien moral ou financier de la part de l'ambassade du Congo en Afrique du Sud ou pas du tout ?
Oh, pas du tout, comme tout citoyen. De prime abord, nous avions contacté l'ambassade dès la première semaine, au mois de mars, bien sûr, qui nous dirait qu'il n'y avait pas de budget pour le social. Tandis que nous sommes en détresse. Et au 30 avril, l'ambassade nous a demandé d'envoyer une copie de nos billets retour et visa. Tout fut fait, bien sûr, mais jusqu'alors, nous sommes... toujours rester sans suite.
Alors que des Congolais bloqués en Europe, je parle peut-être sous votre contrôle, vous êtes mieux informé que moi, Marcus, les Congolais qui étaient bloqués en Europe, eux ont pu être rapatriés, non ?
Effectivement, certains pays d'abord sont en train de rapatrier les leurs. D'ailleurs, même le Congo aussi l'a fait et continue à le faire pour ceux qui sont en France. D'après les dernières nouvelles, même ceux qui sont en Espagne et au Portugal vont rentrer le 30 juin et le 2 juillet. Et pourquoi pas nous ?
Ouais. Bah vous lancez un appel, j'espère qu'on nous écoute, à Brazzaville ou à Pretoria, où se trouve l'ambassade de votre pays. Marcus, courage en tout cas, et merci de votre confiance, vous nous avez appelé. C'est une façon évidemment de lancer cet appel aux autorités congolaises. J'imagine que vous avez toute votre famille qui vous attend à Pointe-Noire.
Oui, effectivement, moi j'ai une famille totalement dépendante de moi. Je dis bien dépendante de moi. Donc, en venant ici, j'ai pris 2 semaines.
Oui.
Donc, non seulement le budget que j'avais prévu pour moi-même ici et le budget que j'avais laissé à ma famille à Pétoir s'est épuisé. Donc, de 2 semaines à 4 mois, vous vous imaginez de la manière dont j'en souffre ici et de la manière dont ma famille se débrouille.
Marcus, courage en tout cas, et donnez-nous de vos nouvelles, rappelez-nous, hein, vous avez notre numéro de téléphone. Avec nous maintenant, en ligne de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Issiaka Koné. Bonjour Issiaka Koné.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous êtes anthropologue, directeur de l'UFR de sciences humaines et sociales à l'université de Daloa. Vous profitez de cette carte blanche que nous vous proposons pour nous interpeller sur les mesures prises en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, pour lutter contre le Covid-19. Et vous allez, vous, un peu à contre-courant de tout ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines, ces derniers mois, de la part des auditeurs, de la part de nombreux intellectuels qui ont pointé du doigt le fait que de nombreux pays et décidé de confiner leur population. En tant qu'anthropologue, vous vous dites, eh bien, il fallait confiner.
Oui, il fallait confiner parce que, comme je le dis, en Afrique en général, nous avons une civilisation du contact. Ce qui suppose que les salutations doivent se faire en se donnant la main. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, nous avons encore les embrassades, à bras ouverts, qu'on appelle atout. Donc, vous voyez, toutes ces choses sont telles que, véritablement, la chaîne de la contagion ne peut que s'accentuer. Donc, voilà pourquoi j'ai estimé qu'il fallait qu'on procède à un confinement total.
La sociabilité est donc partout en Côte d'Ivoire, pays que vous connaissez très bien, évidemment. Donc, difficile d'appliquer ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc, il fallait impérativement demander aux Ivoiriens de rester à la maison. Quand on sait que une grande partie de la population vit au jour le jour, c'était quasiment impossible que ce confinement puisse durer très longtemps.
Oui, voilà justement, il n'a pas duré parce que l'économie n'a pas suivi. Lorsqu'on prend l'économie d'un pays comme celle de la Côte d'Ivoire, où nous avons des acteurs qui constituent environ entre 70 à 80% et qui appartiennent au secteur dit informel. Alors, avec ces gens qui sont obligés de se prendre en charge eux-mêmes, d'exercer une activité, vous comprenez? Le mari est chauffeur de taxi et la femme vend des galettes au bord de la route. Alors, leur demander de se confiner, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà.
Il y a eu des mouvements de colère de la part de la population en Afrique du Sud, au Nigeria. Il n'y en a pas eu en Côte d'Ivoire. Peut-être parce que les autorités ont décidé de déconfiner avant que n'éclate la colère, avant que ne s'exprime le mécontentement. On a une petite minute devant nous. Imaginons l'Afrique de demain, ici à Kakone. Le continent peut sortir renforcé de cette crise sanitaire.
Le continent peut sortir renforcé, mais à la condition qu'on permette aussi au continent de se prendre en charge. Parce que nous avons, par exemple, des chercheurs qui ont mis des systèmes de production de certaines substances à base de produits naturels. Tout cela peut nous aider. Mais si nous devons nous arriver à cette économie occidentale et avec les produits que nous devons leur commander, etc., qui reviennent très cher, ce sera difficile pour nous. Qu'on permette aussi à notre africanité de pouvoir s'exercer. Et si nous avons des produits traditionnels qu'on peut utiliser pour pouvoir anticiper ou bien prévenir certaines maladies, qu'on nous permette de le faire aussi.
Ouais,
et c'est à ce prix que l'Afrique pourra trouver sa voie.
Vous faites référence notamment au Covid-19, cette tisane, puisqu'il s'agit d'une tisane élaborée à Madagascar et controversée, en tout cas elle n'est pas approuvée pour l'instant par l'Organisation Mondiale de la Santé. Voilà donc pour le regard de l'anthropologue Issiaka Koné. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin, Issiaka Koné, pour vous adresser aux auditeurs de RFI. On va marquer une pause, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour la libre antenne 33 9 693 693 70.